vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
À une histoire des résistances au travail et de l'anti-travail au cours des deux derniers siècles. Nous sommes avec Bruno Astarian, participant historique au mouvement dit de la communisation, dont nous avons déjà reçu un des auteurs, Léon de Matisse. Bruno Astarian est également rédacteur de hicsalta-communisation.com et il est auteur de plusieurs livres ou brochures, dont certaines formeront un peu le référent textuel de cette émission. Donc il est auteur de Le dépassement du travail aux éditions Sénone et Véron en 2001, dont on va pas trop parler. En revanche, on parlera beaucoup plus de Les grèves de mai-juin 1968, qui sont parues aux éditions d'Échanges et Mouvements en 2003, de Aux origines de l'anti-travail aux éditions également d'Échanges et Mouvements en 2005, et de Le mouvement des Piqueteros, Argentine 1994-2006, qui sont parus aux éditions d'Échanges et Mouvements en 2007. Et bientôt paraîtra un autre livre de Bruno Astarian qui s'appelle L'abolition de la valeur, et ça paraîtra aux éditions Entremonde en 2017. Alors, étant donné que Bruno va nous donner un petit peu, va nous dresser un petit peu une espèce de tableau historique progressif des luttes, des résistances au travail et de l'anti-travail en partant des luddites. Donc les luddites, c'est un mouvement qui commence en 1811 et qui dure tout au long des années 1810 en Angleterre. Peut-être on consacrera des émissions plus précises à ce sujet-là, mais comment est-ce qu'on arrive globalement à cette situation historique? Pour faire très rapide, pour ce qui est du cas des luddites, on peut dire que l'émergence historique du travail au sens capitaliste s'opère par une reconfiguration des rapports d'exploitation féodaux, c'est-à-dire un rapport de domination directe des paysans, bon, qui ont une multiplicité de statuts, qui vont du servage à des tenanciers un peu plus libres, vis-à-vis de seigneurs. Et il va y avoir une restructuration, en tout cas c'est ce qu'expliquent par exemple les historiens du historical materialism, comme Hélène Maxinsoud ou Robert Brenner, qui font une histoire de l'émergence historique du capitalisme en Angleterre au XVIe et au XVIIe siècle, comme transformation des rapports donc, d'exploitation directe et de dépendance personnelle entre seigneurs et paysans, à une exploitation capitaliste de paysans devenus soit ayant été expulsés de leurs terres et donc devenant force de travail disponible sur le marché urbain pour participer à l'industrialisation. Donc c'est la naissance du prolétariat industriel, du salariat industriel. Une partie de ces paysans vont devenir des ouvriers agricoles, donc c'est la naissance du salariat agricole aussi. donc massivement au XVIIe et au XVIIIe siècle en Angleterre, et une partie vont devenir, alors pour le coup, non, c'est pas tellement des paysans qui vont le devenir, mais peut-être les très très gros paysans, eux vont réussir pour partie avec une partie de la bourgeoisie à se transformer en fermier capitaliste. C'est-à-dire un petit peu voilà l'équivalent du patronat aujourd'hui, c'est-à-dire que ils dirigent des exploitations, ils réalisent des profits, ils exploitent des ouvriers agricoles, ils vendent sur un marché national en Angleterre déjà au XVIIe siècle, voilà avec les contraintes spécifiques au capitalisme, et ils cherchent à augmenter la productivité du travail, etc. Et après, le seigneur, lui, s'est transformé en propriétaire, en capitaliste, d'une certaine façon, même si, comme les actionnaires d'aujourd'hui, il est rarement en même temps, il est parfois gestionnaire, mais souvent, il délègue cette gestion, justement, en fermier capitaliste, dont il va, auquel il va déléguer la gestion directe de l'exploitation agricole et de l'exploitation des salariés agricoles. Et ça va être ce que Marx a décrit comme la triade, un petit peu. Voilà, le salarié agricole, le fermier capitaliste et le propriétaire capitaliste. Alors ça, c'est pour les relations agraires. Mais disons, toute la main-d'œuvre excédentaire des campagnes anglaises va se déverser sur les marchés urbains, où ils vont être employés... de plus en plus comme salariés industriels, mais d'abord beaucoup comme artisans. Ils vont devenir beaucoup artisans, non plus dans des corporations fermées comme au Moyen-Âge, mais des artisans qui travaillent pour ce qu'on appelle des marchands capitalistes, c'est-à-dire des gens qui vont par exemple leur fournir des matières premières, qui vont transformer chez eux et qui vont ensuite revendre à ce marchand capitaliste qui va lui les vendre sur le marché et empocher un profit. Et donc tous ces artisans sont pas encore, leurs conditions. Alors le procès de travail n'est pas directement géré par le capital, et c'est pourquoi Marx parle de subsomption formelle du travail sous le capital, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance formelle de l'artisan qui travaille chez lui, mais en réalité, cet artisan est quand même soumis aux contraintes du capital. Et alors, les ludites, si on suit par exemple ce qu'écrit Marx dans Le Capital, dans le livre 1, ou Andreas Malm dans un livre qui s'appelle Fossil Capital, c'est pas encore le passage de la subsomption formelle à la subsomption réelle, c'est-à-dire le moment où les artisans se transforment en prolétaires industriels, n'ont plus aucune maîtrise de leur procès de travail ou très peu. Et en fait, on verra dans l'émission que en fait c'est moins un passage brutal qu'une espèce de processus très long, puisqu'on voit qu'à la fin du 19e siècle, les ouvriers qualifiés ont encore une certaine maîtrise de leur procès de travail, que donc du coup c'est pas aussi simple que subsomption formelle et on passe en quelques années à la subsomption réelle. Mais disons que les ludites, c'est un mouvement d'artisans qui vont résister à ce processus d'industrialisation qui, petit à petit, les amène vers la subsomption réelle. Et donc, est-ce que cette lutte contre le passage de la subsomption formelle à la subsomption réelle, est-ce que c'est vraiment de l'anti-travail, selon toi, Bruno ?
Avant de parler des ludites, je voudrais dire que tu m'as demandé de parler de l'anti-travail à partir de la brochure que j'ai faite il y a 10 ans, que j'ai relue, qui m'a plu qu'à moitié, et que j'ai trouvé que non seulement dans le milieu ambiant, mais dans mon texte aussi, il règne une certaine confusion sur l'anti-travail. Et je voudrais que cet exposé serve à distinguer, d'une part, la résistance au travail qui existe depuis toujours, depuis que le travail existe et est exploité, et qui, dans le salariat, s'est présenté sous la forme de traîner, de ralentir le procès de travail, de voler, de tricher, d'arriver tard, de s'absenter. Tout ce qui peut permettre de ne pas être au travail, c'est un comportement qui est consubstantiel au salariat, et qu'on trouve encore aujourd'hui, bien sûr, bien que de moins en moins. Et puis, d'autre part, ce que nous avons appelé dans les années 68 l'anti-travail, moi je participais au groupe qui s'appelait Négation et dont le premier numéro portait en titre « Le prolétariat contre le travail ». À l'époque, c'était un peu scandaleux. Et donc ça, on en reparlera évidemment plus tard, pourquoi cette idée s'est formée. C'est à partir des révoltes d'OS qui ont été assez abondantes à cette époque-là. Alors donc, j'ai pensé que pour éclaircir la chose, il fallait le mettre dans une perspective historique. Et dans cette perspective historique, on verra qu'il y a un moment qui est celui donc, des révoltes des OS dans les années 68. Les années 68, pour moi, c'est de 65 à 75 en gros, quoi. Et comme j'avais déjà réfléchi un peu aux Ludites, j'ai proposé de commencer aux Ludites. Alors, les commentateurs d'aujourd'hui disent souvent que les révoltes ouvrières d'aujourd'hui sont des néo-ludites et veulent s'associer à la réputation glorieuse des ouvriers ludites de 1815. En fait, il y a des différences importantes. Et pour dire les choses d'emblée, les ludistes ne sont pas anti-travail. Ils sont pro-travail. Ils cassent des machines, bien sûr, mais ils ne protestent pas toujours contre les machines. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, plutôt que la transition de la domination formelle à la domination réelle, je crois que c'est plus simple de dire, et sans doute plus étroit et historiquement, les ludites étaient dans un milieu qui s'opposait farouchement à l'introduction du système des fabriques. Et que pour eux, l'idée même d'une usine où on rassemblait tout le monde et tout ça, c'était une horreur. C'était, et pas seulement pour les ouvriers, hein, pour les bourgeois aussi, en tout cas pour les aristocrates, qui pensaient que c'était des lieux de perdition morale, etc. Les ludites se sont opposés aux machines, mais jamais aux machines sur lesquelles eux travaillaient. Parce qu'ils travaillaient aussi avec des machines. Ils se sont opposés à l'introduction de nouvelles machines, éventuellement, mais souvent, ils ont cassé des machines pour s'opposer simplement à des pratiques patronales ordinaires de mal payer, de faire baisser la qualité, d'employer trop d'apprentis, même d'employer des femmes. Ça leur plaisait pas du tout. Enfin, si on veut entrer un peu dans le détail des mouvements ludites, d'après le bouquin fondateur de Thomson sur la formation de la classe ouvrière anglaise, il y a eu principalement trois mouvements en une dizaine d'années, à peine. Donc c'était un mouvement très bref. Il y a eu les tricoteurs de bas, qui étaient dans la région de Nottingham, et qui, eux, ne s'opposaient pas à des machines. Ils s'opposaient à des pratiques. Et les pratiques, c'était de faire baisser la qualité en faisant des bas à partir de panneaux de tissu tricoté, qu'ensuite on cousait en forme de bas. Alors qu'eux, ils savaient tricoter des bas directement. Et donc, c'était un travail beaucoup plus qualifié de tricoter des bas directement, sans les coudre. Et ça a donné lieu à des bagarres très importantes. Et l'autre protestation qu'ils élevaient, c'était contre l'emploi excessif d'apprentis. Donc, ils voulaient que le travail soit réservé à la main-d'œuvre la plus qualifiée. Ici, donc, pas de problème d'introduction de machines, pas d'anti-machinisme particulier. Ils cassaient les machines parce que ça embêtait les patrons. Ça me paraît assez normal. L'autre mouvement que donne Thomson, ce sont les croppers. Les croppers, ce sont des tondeurs de draps. C'est une pratique qui consiste à raser le trop de fibres de tissu qui est sur la surface d'un drap. C'est un travail très qualifié et Ici, les machines existaient déjà depuis une machine qui s'appelle le Jigmill, qui existait depuis plus de 2 siècles, je crois, et une autre qui était plus récente. Et ils ne voulaient pas introduire ces machines parce qu'eux le faisaient à la main avec des grands ciseaux très difficiles à manipuler et qui était donc un travail assez qualifié. Et le troisième mouvement, c'était les tisserands de coton du Lancashire qui ne se sont pas non plus tellement opposés à des nouvelles machines, quoique il y ait eu des bagarres contre les tout premiers métiers à tisser à vapeur, mais ils s'opposaient à la pauvreté, à l'obligation de travailler et à l'introduction des systèmes des fabriques. Il y a eu en particulier une, je crois à Middleton, des batailles rangées. Hein, et les ludites n'étaient pas des enragés qui cassaient tout sans réfléchir et tout. Ils étaient organisés, ils venaient la nuit, ils étaient dans des espèces de conjurations où il fallait prêter serment. Et ils s'armaient, ils partaient la nuit, ils marchaient des kilomètres, ils allaient attaquer une usine, une fabrique, comme on dit. Et puis, bon, il y en a plein qui sont morts dans ces bagarres. Et puis le mouvement s'est éteint, principalement sous l'effet d'une répression féroce. Tout ça pour dire que les ludites défendaient une certaine conception, une certaine pratique du travail salarié. Et c'était du travail à domicile, donc semi-salariat, disons. Et ça, c'était pas du tout, c'est pas anti-travail. Hein. C'est simplement qu'ils voulaient pas que leurs conditions s'aggravent, leurs conditions, leurs revenus, quoi. D'ailleurs, les ludites n'étaient pas du tout contre s'organiser politiquement et syndicalement. Ils ont participé à des pétitions pour défendre leurs revendications. Ils ont engagé beaucoup d'argent, des avocats et ça pour aller pétitionner à Westminster. Et ils ont toujours perdu, mais ils n'étaient pas enragés contre la société. Ils croyaient à la possibilité d'une représentation politique du prolétariat et syndicale. Ils ont participé à la fondation de proto-syndicats qui était interdit à l'époque. Mais ils ont donné... Ils ont participé, je veux dire, au mouvement qui a finalement donné le chartisme. Donc ça, c'est un truc qui me semble important, qu'on a un mouvement qui est à tort appelé anti-travail, notamment parce qu'il a été la base d'un développement des organisations ouvrières, du mouvement du travail salarié dans la société capitaliste. On retrouvera un procédé analogue à d'autres époques. Voilà pour le ludisme, sans entrer dans plus de détails.
Oui, effectivement, l'ouvrage d'Edward Palmer Thompson, effectivement, il est assez intéressant, effectivement, sur le ludisme, même si, effectivement, c'est toujours difficile de caractériser le ludisme. C'est vrai qu'on lui a... l'image actuelle du ludisme, beaucoup, c'est l'image que lui en a donné pas mal les mouvements anti-industriels, c'est-à-dire comme une espèce de révolte d'artisans qui étaient contre les machines, mais en réalité c'était plus une espèce de défense, une défense d'artisans, mais qui utilisaient déjà des machines contre le patronat et contre des transformations, disons des restructurations du capitalisme qui leur étaient défavorables. Quoi.
Enfin, ça, pour eux, ça se plaçait pas au niveau du capitalisme en général, mais au niveau du procès de travail. Mmh. Et donc, ils étaient, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne cassaient jamais les machines sur lesquelles ils travaillaient. Mmh. Donc, le sabotage, c'était pas un rejet de leur activité, un dégoût. Mmh. Ils étaient vraiment très ciblés. Mmh. Ils écrivaient des lettres. Hein. Mmh. Ils disaient, monsieur machin, vous êtes propriétaire de telle usine et tout. Nous savons que vous utilisez telle machine. Je vous préviens, si vous l'enlevez pas, si vous la démontez pas, on viendra la casser. Nous savons que vous employez tant d'apprentis. Si vous les licenciez pas, enfin, si vous employez pas des travailleurs qualifiés, on viendra mettre le feu à votre boîte. Et puis, ils le faisaient. Hein. Mmh. Ils le faisaient, enfin, des fois, en tout cas. Et donc, c'était contre des pratiques d'exploitation du travail qui impliquaient parfois l'introduction d'une nouvelle machine. Mais ce n'était pas du tout la règle.
Hein. D'accord. Ouais.
Par exemple, des choses comme les canuts en France, les canuts à Lyon travaillaient avec un tarif. Ils avaient des donneurs d'ordre, les soyeux, qui leur donnaient un tarif. Ils disaient, bon, pour tant de mètres carrés, de telle qualité, vous avez tant. Et il y avait toujours des bagarres sur le niveau du tarif. Eh bien, eux, pareil. Hein. Donc, ils se battaient pour que les patrons donnent un meilleur tarif.
Oui, donc, c'est... En fait, le ludisme, c'est effectivement qu'une mineure partie de sa caractérisation que de lutter contre des restructurations du procès de travail dans un sens, disons, avec davantage de machines et une subvention, enfin, une subordination, disons, davantage réelle au capital. Et en fait, c'est davantage, ça fait davantage partie, selon toi, de la naissance du mouvement ouvrier organisé. D'ailleurs, c'est ça qui intéresse Thompson dans son ouvrage.
C'est sa thèse, oui.
Et du coup, disons, si on va un peu plus en amont, bon, cette subsomption, cette subordination, cette subsomption réelle des travailleurs au capital, elle va quand même s'approfondir. Après les ludites, il va y avoir une grande restructuration d'une partie, notamment de l'industrie textile anglaise dans les années 1830-1840, où vont être massivement introduites des machines qu'on appelle les métiers à tisser, les métiers à filer automatiques, même si c'est pas l'automation hein, des années 70, mais et du coup avec une importante déqualification, il va y avoir certains mouvements comme le mouvement des tisserands qui vont être plus ou moins balayés. C'est ce qu'explique Thompson à la fin de son ouvrage dans la formation de la classe ouvrière. Bon, bah il va y avoir disons le passage à la subsomption réelle dans un certain nombre de secteurs, mais pour autant, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'illusion que voilà, la subsomption réelle, elle est là dans les années 1830-1840, et du coup, les ouvriers ont déjà plus aucune marge de manœuvre. En réalité, comme tu l'expliques bien dans ta brochure « Les origines de l'antitravail », en réalité, il y a encore une certaine maîtrise, au moins dans un certain nombre de secteurs productifs, du procès de travail, qui n'est pas le même que la maîtrise, disons, des artisans à la fin du XVIIIe siècle. Mais disons qu'il va y avoir, on va se retrouver dans un procès de travail qui n'est plus le procès de travail artisanal, mais qui n'est pas encore non plus le taylorisme, et ça va donner naissance à des formes spécifiques de résistance au travail. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces formes de résistance ?
Oui, alors, il reste, par rapport, après les artisans, il reste quand même une partie importante de travail qualifié. Il y a aussi une masse importante de travail non qualifié, qui est au début confié aux femmes et aux enfants, et c'est le travail qualifié qui va être la base de la résistance et de la formation des syndicats dans toute la fin du 19e siècle. Je parle pour l'Europe, hein, aux États-Unis aussi. Oui, aux États-Unis aussi. Les travailleurs qualifiés aux États-Unis avaient une certaine indépendance, et je crois que ça valait aussi en Europe. Par exemple, ils avaient le droit d'embaucher leurs propres aides. C'est eux qui les amenaient et qui les payaient sur leur propre salaire. C'est-à-dire que le salaire était calculé pour payer aussi un ou plusieurs aides dans certains travaux où il y avait besoin d'aide. Les syndicats étaient capables, aux États-Unis, dans les années 1860, selon mes sources, il y avait 10 400 fondeurs de fer, je suppose, dans tout le pays. Et 8400 étaient syndiqués. Le syndicat était capable de leur donner des ordres à ces 8400, comme par exemple leur interdire de travailler avant 7 heures du matin. Ou, ça c'est pour un autre syndicat, leur demander d'interdire à leur patron, qui étaient visiblement des petits patrons, de travailler avec eux, c'est-à-dire d'employer des outils pour défendre l'emploi et les payes des ouvriers, ou des choses comme ça. Et donc, ils avaient des façons très efficaces de restreindre la production. et de se vendre comme ça plus cher. Il y avait une organisation patronale qui a protesté contre ces... Enfin, ça, la lutte a été constante, hein, mais selon les aléas de la conjoncture, c'était plutôt les ouvriers qui gagnaient ou plutôt les patrons qui gagnaient. En 84, il s'est formé une association qui avait pour objectif la liste suivante. Pas de closed shop, hein, on en reparlera tout à l'heure éventuellement. Pas de restriction dans l'utilisation des machines. Pas de limitation de la production. Pas de boycott des produits. Pas de grève de solidarité. Et pas de restriction sur les apprentis. Ça donne une idée de ce que les syndicats étaient capables d'imposer. C'est-à-dire, toute cette liste, c'est des choses que les syndicats faisaient. Donc, le closed shop, c'est de réserver l'entrée dans l'atelier à des ouvriers syndiqués. Ça veut dire donner le monopole de l'embauche aux syndicats. Pas de restriction à l'utilisation des machines, c'est la même chose. Il s'agissait un peu comme dans ce qu'on a vu à propos des ludites. Il s'agissait de défendre l'emploi en restreignant l'utilisation des machines. Mais ça peut être aussi de restreindre le temps d'utilisation des machines. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a une machine, le mieux, ce serait qu'elle tourne 24 heures sur 24 pour l'amortir plus vite. Donc je suppose que ça recouvre ça aussi. Les autres points, c'est des points... je veux aussi parler des grèves de solidarité. Les grèves de solidarité, elles étaient très fréquentes. Dans une même usine ou dans un même atelier, les différents métiers étaient groupés en syndicats indépendants les uns des autres. Alors, par exemple, il y avait, un syndicat pour les soudeurs, un syndicat pour les visseurs, un syndicat pour les balayeurs, un syndicat... Non, pas les balayeurs, parce que ce n'est pas qualifié. Mais, il y avait donc différents. Si une des professions entrait en conflit avec le patron, c'était évidemment beaucoup plus efficace si les autres syndicats s'y mettaient aussi. Alors, ces grèves de solidarité étaient fréquentes, soit à l'intérieur de l'usine, soit d'une usine à l'autre. Et les patrons, évidemment, y étaient, et y sont toujours d'ailleurs, très opposés. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les luttes des ouvriers pour défendre leur niveau de qualification, et leur niveau de salaire, bien sûr, les ont amenés à regrouper leurs efforts syndicaux. Et peu à peu, on a assisté à une transition du syndicat par métier au syndicat d'industrie. C'est-à-dire que dans une même boîte, tout le monde était syndicat au même syndicat. Ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, ça a mis longtemps à se faire. Mais il y a eu plusieurs tentatives de regroupement de syndicats de métier. Là, je parle toujours pour les États-Unis. Et il y a eu un truc qui s'est appelé, au début du XXe siècle, les System Federations, qui étaient des regroupements où les bureaucrates syndicaux des syndicats de métiers se regroupaient pour essayer de garder le contrôle sur des luttes qui partaient dans une forme de lutte industrielle plutôt que de lutte de métiers. Donc ça, c'était au tournant du 19e et du 20e siècle. L'indépendance des ouvriers de métiers dans les ateliers de fabrication était quelque chose qui était très scandaleux pour les patrons. Et c'est de là qu'est sorti le taylorisme. Et comme chacun sait, le Taylor luttait contre la flânerie des ouvriers dans l'atelier. Et donc on va arriver à un passage où il va essayer d'attacher les ouvriers à leur temps et à leurs gestes en les restreignant pour qu'ils arrêtent de se prétendre indispensables et de faire ce qu'ils veulent dans l'atelier. Ce sera une transition assez longue. Mais je pense que c'est ça qui marque vraiment, le passage à la subvention réelle. Pardon. Avant ça, je veux parler d'un autre point qui, comme les ludites, est souvent invoqué par les commentateurs d'aujourd'hui, c'est le sabotage tel que Pouget l'a glorifié dans son fameux texte qui est cité partout, édité partout, et qui mérite d'être lu de près. Le sabotage Puget a introduit le sabotage, qui certainement existe depuis toujours, qu'il y a du travail salarié, a introduit le sabotage dans le discours syndical au congrès de la CGT de 1897. Et ça a été admis, ça a été acclamé, enfin pas systématiquement, mais enfin, ça a été admis, puis après on a un peu bémolisé. Et dans sa brochure, Puget montre bien comment le sabotage est un auxiliaire de la grève et de la revendication contre les patrons. Mais c'est pas le même sabotage, je pense, que celui des OS modernes, enfin des OS modernes, ceux des années 68, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, on en reparlera plus tard. Le sabotage de Puget, c'est un sabotage qui est organisé, qui est encadré syndicalement, qui vient en préparation d'une grève, par exemple, quand des ouvriers préparent une grève, ils citent un cas de la boulangerie où les fours ont été sabotés pour empêcher les jaunes de faire du pain à la place des grévistes. Donc, prévention des jaunes, on sabote un peu l'outil de travail, enfin mettre du pétrole dans les fours, c'était apparemment plus qu'un peu. Mais dans l'ensemble, le sabotage de Puget est presque bon enfant. Et les exemples qu'il cite sont soit des exemples d'ouvriers qualifiés, comme les boulangers, ou il cite aussi des coiffeurs, il cite aussi des cuisiniers, ou bien des exemples imaginés de sabotage, par exemple dans les chemins de fer.
Oui, et donc du coup, ce que tu penses, c'est que du coup, Puget, c'est pas un théoricien de l'anti-travail, mais un théoricien plutôt juste anti-patronal, quoi.
Voilà. Le sabotage de Puget n'est pas anti-travail, il est anti-patron. Et il est, disons, mesuré, modéré, parageur. Il a été, Puget a été grandement plagié, pompé, par un théoricien des International Workers of the World.
Les Wobbies.
Les Wobbies, voilà. Qui s'appelle Smith. Et qui a pompé des passages entiers du bouquin de Puget, les a traduits en anglais, et qui reprend l'idéologie de Puget principale, qui consiste à dire, je cite verbatim, « Payez aux travailleurs un bon salaire, et il vous fournira ce qu'il y a de mieux comme travail et comme adresse. » Payez aux travailleurs un salaire insuffisant et vous n'aurez plus le droit d'exiger la meilleure qualité et la plus grande quantité de travail que vous n'en avez eu à exiger un chapeau de 5 francs pour 2 francs 50. Donc, c'est très clair. Puget ne dit pas qu'il est contre travailler. Il dit « je veux bien travailler très bien et beaucoup à condition d'avoir la paye en face ». C'est pas illégitime du tout, mais c'est pas la même chose que ce dont on va parler à propos de l'anti-travail. Et il cite Puget, il cite un syndicaliste des chemins de fer, dont je vais vous lire l'extrait, là, c'est quand même éclairant. Ce type des chemins de fer demande « Il faudrait des camarades parmi les professionnels qui, connaissant le mieux les rouages du service, saurait trouver les endroits sensibles, les points faibles, frapperait à coup sûr sans faire de destruction imbécile et par leur action efficace et intelligente rendrait d'un seul coup inutilisable pendant quelques jours le matériel indispensable. » Donc là, il s'agit de ne pas faire de destruction imbécile et de ne bloquer le matériel que pendant quelques jours. Mais donc, c'est toujours la même chose, c'est la défense du travail dans des bonnes conditions salariales.
Et du coup, comment est-ce que Puget il imagine du coup le dépassement du capitalisme? Parce que l'époque du syndicalisme révolutionnaire, il imagine quand même ça.
Eh bien oui, bien sûr, tout à fait. Et il dit, après, quand nous serons propriétaires, on travaillera avec les machines, et les machines seront devenues nos amis. Actuellement, elles sont nos ennemis, il le dit très, en toutes lettres. Les machines actuellement sont nos ennemis, parce qu'elles servent le patron à nous exploiter. Mais quand elles sont notre propriété, on travaillera modérément, enfin tout le programme que moi j'appelle le programme prolétarien, le programme ouvrier traditionnel, qui est donc de garder la forme de travail actuelle, actuelle de l'époque, hein, et d'y introduire une relative modération, c'est-à-dire moins d'heures de travail, plus de salaire, plus de loisirs, plus de formation. Enfin, c'est tout le thème de la fameuse critique du programme de Gotha de Marx, que j'ai critiqué en détail au début de mon bouquin sur la valeur.
Oui, effectivement, c'est le fait simplement on change les propriétaires des moyens de production, mais on change pas les rapports sociaux, les rapports de production, les rapports capitalistes de valeur.
Voilà. Et l'idée que les ouvriers sont propriétaires c'est formel quoi, c'est pas réel. Voilà ce que disait à propos de ça le plagiaire américain de Puget, donc Smith, il disait « Pour autant que les procédés de production sont concernés, nous sommes en possession de l'industrie. » Il voulait dire « Notre travail nous permet de contrôler l'industrie. On n'a pas besoin des patrons, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y en avait pas encore, ou pas beaucoup. Et donc, nous, on sait faire le boulot, donc on sait gérer la production, donc on sait gérer la société. » C'est ça, du travail qualifié à la base, à la gestion du gouvernement, les ouvriers ont tout dans leurs mains. C'était ça l'idée principale. Et donc, il conclut, Smith toujours, « Et cependant, nous n'avons ni sa propriété de l'industrie, ni son contrôle, à cause d'une croyance absurde dans les droits de propriété. » Donc voilà, il suffit d'exproprier les propriétaires des usines et on va obtenir une société de travailleurs associés qui gèrent la production elle-même. C'est toute la... toutes les idées de Marx aussi et qu'il faut aujourd'hui critiquer.
Oui, c'est pour ça que la théorie de la communisation d'ailleurs dit que du coup ce que vous appelez le programme prolétarien est devenu un peu obsolète étant donné la restructuration du mode de production capitaliste et le fait que depuis les années 70 les ouvriers ne sont plus et même depuis avant ne sont plus les gestionnaires du processus de production avec simplement des patrons et des ingénieurs parasites et qu'il suffirait simplement de se réapproprier que les ouvriers ont déjà tout clé en main et qu'il suffit juste de changer les rapports de propriété. Mais bref, je te laisse conclure sur au sujet de Puget.
Oui, alors, de Puget et de cette période du travail qualifié qui oppose sa qualification à l'exploitation patronale. On a vu comment la résistance des syndicats de métiers sur la base de leur indépendance les a amenés à se rapprocher les uns des autres et à évoluer vers un syndicalisme d'industrie. De la même façon, le sabotage de Puget et celui de Smith n'est pas anti-travail, il est pro-travail. Il veut défendre les conditions de travail et de salaire des ouvriers qualifiés, principalement qualifiés. Et Smith a même rajouté quelque chose aux idées de Puget, qu'il a pourtant beaucoup copié, c'est l'idée d'un sabotage constructif. Et le terme de sabotage constructif, dans son texte, désigne l'intérêt qui a organisé des sabotages pour organiser la classe ouvrière et pour faire participer les gens et pour les regrouper, les discipliner dans des formes de lutte nouvelles, etc. Et il pense que ça fait partie de l'éducation de la classe ouvrière, comme le syndicalisme en général, vers un processus révolutionnaire qui consisterait à exproprier les expropriateurs. C'est contre ça, contre cette indépendance de pratique et de critique qu'ont les ouvriers qualifiés, que va se mettre en place l'organisation scientifique du travail.
Voilà, et ben donc, avant de parler de l'organisation scientifique du travail de Taylor, on va faire une petite pause musicale.
Oh, je voudrais tant que tout ça devienne des jours heureux et la misère finie. Mais dans le monde aujourd'hui,
et la grève sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Les assassins, en Argentine, nous survivons tous deux ensemble. Les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit, et le temps ne saurait effacer.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire des résistances au travail et de l'anti-travail au cours des deux derniers siècles. Et pour en discuter, nous sommes avec Bruno Astarian, participant historique au mouvement de la communisation, rédacteur de xalta-communisation.com et auteur de nombreux ouvrages et brochures sur ce sujet. Alors on a parlé des mouvements de résistance au travail, pour le coup, pas de mouvement anti-travail jusque la période qui précède l'introduction du taylorisme en France. Donc l'introduction du taylorisme en France, globalement, c'est la fin des années 1900, la Première Guerre mondiale. On a parlé donc du coup des ludites, on a parlé des résistances des ouvriers de métier à la fin du 19e siècle, on a parlé du syndicalisme révolutionnaire, du sabotage, de Pouget, et maintenant on va parler de l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, le fordisme, et les résistances qui vont naître face à cette restructuration du procès de travail, résistance d'abord, et puis ensuite l'anti-travail.
Alors, Taylor observait les ouvriers, voyait tout le temps qu'ils perdaient, soit à flâner, soit à faire des gestes inutiles, et il a introduit une réflexion très approfondie sur comment organiser le travail, pas seulement les chronométrages de chaque geste, de chaque ouvrier, pour essayer de faire réduire son temps à chaque tâche, mais aussi l'organisation croisée entre tous les travaux dans une même usine, pour que tout s'imbrique facilement entre les différentes parties du procès de travail, et qu'il n'y ait pas de temps perdu dans des stockages intermédiaires ou des choses comme ça. En fait, les patrons n'ont retenu dans un premier temps de Taylor que le chronométrage. Ça, ça leur a beaucoup plu. Et donc, tous les schémas trop compliqués de réorganisation complète des ateliers, ça les embêtait. Surtout qu'ils obtenaient des gains de productivité massifs rien que par le chronométrage. Après, quand il a fallu aller encore plus fort dans l'exploitation, on est passé au fordisme. Alors la formule de transition, je l'ai trouvée, enfin une forme de transition, je l'ai trouvée dans un petit bouquin d'un Américain qui s'appelle Stanley Matthewson et qui a écrit sur les restrictions à la production, je traduis, parmi les travailleurs inorganisés. Alors inorganisés, c'est important. Les ouvriers, ils étaient assez d'accord d'aller travailler dans les usines fordisées parce qu'il y avait des bons salaires, même si les conditions étaient difficiles. Et malgré tout, Matthewson y trouvait que avant et après l'introduction du fordisme, on était en deçà des gains de productivité possibles et que les ouvriers avaient des méthodes systématiques de restreindre la production. Pourquoi ? Il se demande-t-il. Lui, c'était un ingénieur, hein. Il était parti dans les usines pour voir de l'intérieur. Mais c'était un ingénieur qui travaillait pour une chambre de commerce et d'industrie quelque part dans le Middle West. C'était dans les années 20. Le bouquin a été publié en 31. Et il trouve que il y a un manque à gagner parce que, justement, comme je viens de dire, les patrons se contentent de chronométrer et ne veulent pas chercher plus loin. Or, le chronométrage, les ouvriers savent tricher avec. Quand l'ingénieur vient, bon, c'est des choses qui sont connues. Quand l'ingénieur vient, ils font exprès de travailler lentement. Et après, ils ont des temps de repos possibles. Mais, donc, il voudrait que les patrons soient plus hargneux pour gagner de la productivité. Mais il dit aussi, et ça m'a bien amusé, que parfois, je cite, le freinage résulte de la simple perversité. Une désinclination à travailler ardemment. Voilà, c'est comme ça qu'il comprend la résistance à l'exploitation, la perversité. Plutôt pour rigoler. Donc, il dit, la meilleure façon d'empêcher les ouvriers de tricher sur le chronométrage, c'est de régler non seulement leurs gestes, ce qu'ils font, le mouvement, mais aussi les temps. Donc, les temps et les gestes, c'est les trucs de base. Et pour régler les temps, il faut introduire le tapis roulant, c'est-à-dire la chaîne transporteuse, le fordisme. La différence entre le taylorisme et le fordisme, c'est l'introduction du tapis roulant. Mais lui-même a travaillé dans une usine qui était fraîchement fordisée, une usine de boîtes de conserve, et il décrit le travail qu'il avait à faire et il montre bien comment c'était impossible de faire ce qu'on lui demandait de faire à son poste dans les temps qu'on lui demandait avec la formation qu'il avait reçue en quelques heures. Donc, il s'y débrouillait comme il pouvait. Et puis, il a vite découvert qu'un peu plus haut dans la chaîne, il y avait des filles qui faisaient à peu près le même boulot que lui et qui, quand elles étaient dépassées, mettaient un bout de ferraille dans la chaîne et bloquaient la chaîne et ça leur laissait du temps pour récupérer. Donc, il savait très bien que la solution fordiste n'était pas idéale. Mais surtout, ce qu'il raconte là, c'est que, à mon avis, il décrit les premières formes de sabotage anti-travail. Parce que là, le travail est obligé de s'arrêter. Les filles qui bloquent la chaîne, elles n'ont rien à défendre. Elles n'ont pas à défendre un savoir-faire et tout. C'est juste qu'elles ne peuvent plus. Et donc, il faut arrêter. Il faut bloquer la machine, la dégrader, la mettre en panne artificiellement. Toutes les méthodes de sabotage qu'on connaît, ou mal faire le boulot, hein, dans le travail à la chaîne. Je pense que quand on est arrivé au degré de déqualification du travail qui permet le travail à la chaîne, les pratiques antérieures, classiques, qui ont toujours eu lieu de résistance à l'exploitation, deviennent anti-travail. Il ne s'agit plus de flémarder, il ne s'agit plus de tirer au flanc, il s'agit, volontairement ou pas volontairement, de manifester que le travail arrive à un point de blocage. Donc, ça existait déjà, d'après ce témoignage, dans des usines avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Le fordisme s'est répandu partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi en Europe et ailleurs, et s'est développé de façon très rapide, mais avec une particularité. Évidemment, ça a représenté des investissements très importants, de construire des chaînes, de restructurer tous les matériaux, les machines et tout ça. Mais disons qu'à partir des années 60, la hausse de la productivité, qui était une nécessité de tout temps dans toutes les entreprises capitalistes, la hausse de la productivité n'est pas passée par des nouveaux investissements en capital fixe, en machinisme, mais plutôt s'est faite en accélération des cadences. Alors, pour obtenir des meilleures améliorations des cadences, il arrivait qu'on automatise une partie du processus de production, mais pas des grandes vagues d'automatisation, comme on a vu après la crise des années 68. Avant la crise des années 68, les patrons ont essayé d'économiser sur l'investissement en poussant les cadences et en forçant sur l'exploitation directe du travail. C'est un processus qu'on a vu dans plein d'endroits. Il y a des descriptions des usines automobiles américaine dans les années fin des années 60 où la dégradation des conditions de travail est très grande, les usines sont mal entretenues, sont sales, sont pleines d'obstacles dangereux, il y a des accidents du travail très graves, et la même chose en France. Et c'est ça qui fait que ça a explosé à la fin des années 60 et au début des années 70. Le travail avait perdu non seulement toute signification, mais pratiquement toute possibilité. Si les ouvriers voulaient ralentir le travail, comme faisaient leurs ancêtres, les travailleurs qualifiés, ils ne pouvaient pas. S'ils voulaient introduire un nouveau geste qui leur permettait d'avoir même mal au dos ou de gagner du temps ou quelque chose comme ça, ils ne pouvaient pas. Tout était réglé par la machine. La qualification du travail était passée dans les machines. Eux, ils n'étaient plus là que pour faire exister ces machines, faire travailler ces machines.
Ils étaient devenus des appendices de la machine, pour le coup.
C'est la formule de Marx, oui. Et donc, quand ils voulaient s'opposer à leur machine, ils s'opposaient au travail. Parce que le travail, il est pratiquement dans la machine. Et le sabotage et toutes les formes d'indiscipline qui sont apparues à ce moment-là sont devenues anti-travail. On va essayer de définir un peu mieux ce que ça veut dire anti-travail tout à l'heure. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas de la même nature que le sabotage de Puget ou que les destructions des Ludites. D'ailleurs, les OS, comme on dit en France, pour les travailleurs non qualifiés, les luttes anti-travail des OS n'ont donné lieu au développement d'aucune nouvelle forme d'organisation ouvrière. Je rappelle ce qu'on a dit un peu plus haut. Les Ludites ont participé à la formation des premiers syndicats et des premiers partis politiques. Les ouvriers qualifiés ont contribué à pousser le syndicalisme de métier vers le syndicalisme d'industrie, et qui s'est formé finalement dans les grandes grèves de 1937 aux États-Unis. Et les OS des années 68 n'ont rien donné. Ils ont été un terrain d'activisme pour les gauchistes de l'époque, qui voulait reconstruire le grand parti révolutionnaire à la mode maoïste ou autre.
Trotskiste.
Ou trotskiste ou exotique. Et ça n'a rien donné. Parce qu'il n'y a pas de demande de présence ouvrière dans les usines où le travail est à ce point déqualifié. Les ouvriers spécialisés, les OS, s'ils doivent travailler, ils viennent. S'ils n'ont pas besoin de travailler, ils préfèrent être ailleurs. L'atelier n'est pas leur lieu de prédilection.
Oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ta brochure sur mai 68, que j'ai trouvé assez intéressante parce qu'elle elle complexifie, elle revisite, elle critique la vision, disons, gauchiste habituelle des événements. En parlant, tu dis plutôt que de grève générale, comme il y en a eu en 1936, sur laquelle on fera prochainement une émission. C'est plutôt un arrêt de travail généralisé. Et tu racontes cette anecdote que j'ai trouvée. Bon, déjà, donc, les ouvriers se barrent des usines et ils n'y reviennent plus. Il y a cette anecdote qui m'a beaucoup fait rigoler. C'est le fait qu'apparemment, il y aurait une explosion de vente de matériel de bricolage pendant mai-juin 68. Et du coup, on aurait presque dire que cet anti-travail c'était vraiment une désertion des lieux de travail au profit de faire autre chose, pas au profit de construire une organisation ouvrière qui va affirmer le travail.
Oui, tout à fait. Oui, enfin, on va pas partir sur B68, mais j'ai essayé de vérifier cette anecdote. J'ai téléphoné à l'époque où je faisais le steak, j'ai téléphoné à la Fédération des patrons du bricolage, ou je sais plus quel organisme professionnel, et j'aurais soumis le problème. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ils tombaient des nues. Ils avaient aucune idée, parce qu'il n'y avait pas d'archives et tout. Donc, j'ai jamais pu vérifier cette histoire.
D'accord.
Mais ce serait.
Ce serait pas invraisemblable, en tout cas.
En tout cas, elle est plaisante. Donc, on va la garder pour l'instant, jusqu'à la preuve du contraire. Mais elle veut dire aussi autre chose. Pas seulement que les ouvriers ne s'intéressaient pas à occuper les usines, mais elle veut dire aussi que. Ça veut dire aussi qu'on était dans un moment de haut de cycle et dans une conjoncture favorable, toute proportion gardée, évidemment, pour les salaires. Ça veut dire qu'ils avaient des réserves et qu'ils pouvaient rentrer chez eux et attendre la fin de la grève en allant s'acheter de la peinture et repeindre leur cuisine ou réparer leur motocyclette ou n'importe quoi. Et donc ça, je ne sais pas si dans une situation de crise un peu plus...
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.